Je vous propose de commencer. Je vais essayer de parler comme ça en soutien avec, avec le micro. Bah, je voulais déjà vous remercier de ne pas avoir cédé à la tentation de regarder France-Angleterre en sachant que j'ai regardé les résultats, c'est mal parti. Bref, je voulais vous remercier d'être là ce soir. Il y a un partout, me dit-on. Bref, j'étais en train de repenser comment j'allais introduire cette conférence et... Et je me disais, tiens, il y a un an, avec nos collègues de Synopsy, dont il y a Antoine là-bas qui a présenté la semaine dernière, j'avais voulu parler un peu plus de ma pratique. Je reviendrai sur mon boulot. Et je voulais traiter de cette ambitieuse question que vous voyez derrière, de quoi SDF est-il le nom? Et puis, on se retrouve le 11 juin 2012 et je me suis... Le moment tant attendu a été aussi un moment fort angoissant parce que c'est une question extrêmement compliquée à traiter. Et j'ai eu un quantum, on va dire, comme ça, d'angoisse à l'arrivée de cette conférence en me disant que j'allais quand même essayer de répondre à vos attentes, vous, auditeurs de l'Unipop. En tout cas, je vais essayer de traiter cette question par le prisme de ma pratique. Et puis, déjà pour vous dire un peu où on va aller, ce que je vais faire ce soir, c'est pas forcément un profil psychologique du sujet SDF, du sujet dit SDF. C'est plutôt tout le contraire, en fait. Je vais essayer si j'avais fait un portrait du sujet SDF, il y aurait eu rien de plus stigmatisant, finalement. Ce que je voulais préférer faire, c'était plutôt d'aborder la question SDF autour du système SDF. Parce que, comme le dirait Winnicott à propos d'un bébé, un bébé ça n'existe pas. Je pense qu'on peut dire la même chose du SDF en disant qu'un SDF ça n'existe pas si on ne prend pas en compte tout le contexte qui fait que cette question est née il n'y a encore pas si longtemps que ça. C'est une question qui est effectivement à la fois individuelle pour les sujets qui sont stigmatisés, catégorisés dans cette position de SDF, mais c'est aussi une question intersubjective, sociale, institutionnelle, sociétale, et quand je dis institutionnelle, bien évidemment que la question politique et médiatique trouve ses origines, SDF trouve ses origines dans un discours à la fois médiatique et politique. Et c'est un peu de ça dont je vais essayer de traiter ce soir, sans oublier toute la part du social. Et la part du social, finalement, c'est un peu nous tous. Alors, je voulais déjà, dans un premier temps, revenir un peu sur... Le SDF, c'est une figure qui est assez récente. On l'a pendant longtemps appelé le clochard, le clodo, la cloche, le vagabond, le vagueux, j'en passe, clic patin, train de savate, nécessiteux, mésireux, ruffian, sans foi ni loi, gens sans aveu. J'ai même trouvé courteau de boutange, coquillard. Enfin, on trouve un ensemble de noms pour essayer de définir de nommer cette figure de l'humain, qui est une figure assez particulière, qui est une figure de la marginalité, de l'errance, mais aussi de la déchéance. C'est souvent comme ça que c'est abordé depuis tout temps. La question SDF, le terme SDF est apparu quand j'ai fait mes petites recherches. Selon la revue L'Histoire, elle est apparue en 1983. À partir de ce moment-là, en 1983, elle va apparaître dans les médias, et à partir de ce moment-là, il va y avoir une espèce de disparition des noms comme clochard, comme vagabond, comme mendiant. Je reviendrai un peu plus sur l'histoire de ce sigle qui aujourd'hui nous est quand même relativement familier, parce que c'est toute une histoire. C'est le reflet d'énormément de questions de mutations politiques et sociales. Ce qui va m'intéresser, en fait, c'est essayer de montrer ce glissement sémantique qui fait qu'on est passé du vagabond au mendiant au SDF. Et le terme de glissement sémantique, il est intéressant parce que quand on fait des recherches, on s'aperçoit que c'est un outil de propagande, le glissement sémantique. Ça permet d'évider une question, d'évider, de la banaliser, de la neutraliser. Et ces questions, on la retrouve dans d'autres questions, dans le champ du handicap aussi. Aujourd'hui, on ne parle plus des vieux, mais on parle des personnes âgées, on ne parle plus des aveugles, mais on parle des personnes malvoyantes. Donc, bon, la question SDF, s'inscrit dans cette continuité-là. On essaiera de voir pourquoi, je vais essayer d'apporter des réponses, bien évidemment qu'on pourra en discuter après. Mais peut-être un mot d'où je parle. Alors, ça fait maintenant pratiquement 6 ans que je suis psychologue clinicien. On n'arrête pas de le dire, hein, ce mot clinicien. Ça fait 5 ans que je travaille au CHU de Saint-Étienne, dans un dispositif assez particulier. C'est entre un service et un dispositif, dont l'intitulé, c'est une équipe mobile psychiatrie de précarité. Ça fait maintenant plus d'une dizaine d'années que ce dispositif existe sur Saint-Étienne. On en retrouve également sur Lyon, en tout cas dans toutes les grandes villes. C'est un dispositif assez particulier puisque la plupart de mon temps, je ne passe pas à l'hôpital, je passe à l'extérieur, dans la cité. Donc, je vais essayer de m'appuyer pour répondre à cette question déjà sur cette partie-là et puis sur d'autres pratiques. Je fais de l'analyse de la pratique auprès d'équipes de rue. Et puis, je suis aussi formateur dans une école d'éduc où je suis assez interpellé par ce que mes étudiants me ramènent comme matériel du point de vue des institutions. Il me semble qu'il y a depuis maintenant une vingtaine d'années, des mutations assez profondes, et il me semble que la question SDF est assez paradigmatique pour révéler ces bouleversements qu'on connaît aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le SDF, vous l'aurez bien compris, c'est devenu l'emblème, l'icône des priorités politiques en matière de lutte contre les exclusions. Il est devenu, on va dire, la pierre angulaire des politiques aujourd'hui en matière de lutte contre la précarité, de lutte contre l'exclusion. C'est vrai que il est vraiment question de pierre angulaire puisque on s'aperçoit que l'ensemble des interventions étatiques sont concentrées sur cette question-là, quitte parfois un peu à cacher le reste, toutes les autres formes d'exclusion. Mais le SDF, il est assez représentatif de ces politiques. Mais quand on regarde un petit peu le SDF, dans mes écrits, moi je mets des guillemets, parce que c'est une notion qui reste assez floue. On s'aperçoit qu'il est une notion juridiquement instable, qu'il n'y a pas véritablement de définition de ce que c'est qu'un SDF. On sait juste que c'est une résurgence, une réactualisation d'un terme de la fin du 19e siècle qu'on retrouvait dans les registres de police. Et à la fin des années 70 et début des années 80, il réapparaît. Alors déjà, pour appréhender ces questions SDF, je vais vous proposer ce que j'ai appelé la petite histoire de vagabond de Monsieur SDF, pour s'apercevoir que... Avant le SDF, il y avait la figure du vagabond, et que le SDF est aujourd'hui l'héritier de cette figure-là. Le vagabond, depuis que nos sociétés sont sédentaires, la question du vagabondage s'est posée. Il est une figure séculaire de nos sociétés occidentales. Il a longtemps été la figure... comme les auteurs disent, d'indignité infamante, troublant l'ordre public. Tantôt on a voulu le bannir, l'exclure, le brûler, l'enfermer, le torturer, le mettre au travail forcé, et puis à d'autres moments de l'histoire, on a voulu le nourrir, le soigner, lui porter secours et l'assister. On s'aperçoit que cette figure-là du vagabond, qui reste aussi une notion très très floue, a toujours été... la cible d'actions politiques, surtout en période de grande crise économique. Le vagabond, c'est une figure de l'errance, c'est une figure de l'entre-deux. Et ce que je propose de dire, c'est que le vagabond, avant la question SDF, se propose comme un analyseur naturel des malaises d'une civilisation. Et il l'est par rapport au traitement réel auquel il a été soumis. C'est-à-dire les traitements réels, à la fois par les institutions et voilà. On va commencer au premier Moyen-Âge. Dans mes recherches là, la semaine dernière, parce que j'ai pris toute la semaine dernière pour essayer d'écrire cette intervention, on s'aperçoit que le vagabond, il est une figure qui permet d'accéder, c'est un outil indispensable à la charité. J'ai retrouvé, par exemple, en 337, Martin, cavalier romain d'originaire de la lointaine Pannonie, à l'arrivée de Porte d'Amiens, croise un indigent et lui prie de compassion et lui donne sa veste. Et le soir même, le Christ va lui apparaître et ce fameux Martin ira évangéliser la Gaule. Donc c'est une première figure, hein. C'est une figure qui permet d'accéder à une forme de transcendance, hein. Une forme, il représente finalement le Christ mendiant. Hein. Il est une figure du salut, hein, pour les riches, mais il n'en sera pas tout le temps ainsi. Huit siècles plus tard, hein, enfin à l'époque du premier Moyen-Âge, on va dire qu'il y avait des espèces d'espaces sociaux, ce sont les villages, les villes, hein, elles sont noyées dans un immense espace sauvage. Et huit siècles plus tard, il va y avoir, enfin moi ce que j'appelle un espèce de travail d'anthropisation, c'est-à-dire que l'espace social va se déployer, hein, il va y avoir une véritable colonisation de l'espace sauvage par la culture, hein, au sens anthropologique et puis au sens agronomique du terme, ce qui fait que l'espace sauvage tel qu'il est défini se réduit. Et à cette époque-là, le vagabond va se muter dans une figure qui sera plus celle du bon pauvre, mais plutôt du mauvais pauvre. À cette époque-là, les historiens disent que le monde devient plein. Et puis c'est une époque aussi où il va y avoir quantité d'épidémies de lèpre, de peste. Et cette figure du vagabond, qui est une figure insaisissable, hein, va représenter un petit peu cet espace sauvage insaisissable et va devenir l'objet d'une véritable croisade, hein, contre l'espace sauvage, on va dire. Donc 8 siècles plus tard, on est au Moyen-Âge, ça va être à l'époque je crois qu'il y a aussi, je suis pas historien, mais il va y avoir ce qu'on appelle la petite ère glaciaire. Il va y avoir aussi donc ces épidémies de lèpre. Il va y avoir une réapparition de la question de la mort assez importante. Et c'est à ce moment-là que toute une politique de prévention, hein, d'hygiénisme va se mettre en place. Il y a une espèce de pouvoir qui va s'institutionnaliser. Et le contrôle et la surveillance des dits marginaux va devenir un peu un exemple fort, hein, de ces politiques de prévention. Alors c'est une époque assez de mutation assez importante, c'est une période de crise à la fois sociale, politique, économique. Et à cette époque-là, et bien, le vagabond va être chassé. Mais au sens propre du thème, il va être exclu, banni hors de la cité, hors des espaces sauvages qui restent. Il va être mis au banc de la cité, mis hors de l'espace social, ou encore plus radicalement encore, il sera mis à mort, mis au bûcher. Il devient plus cet objet d'accession à la charité, il va devenir un représentant satanique, hein, un objet mauvais. Et puis c'est l'époque quand même, il y a un arrière-fond d'inquisition qui va rajouter quand même une dimension un peu de croisade, hein, contre cette figure-là. Donc à l'époque, dans le haut et le premier Moyen-Âge, c'est un objet sacralisé, hein, qui peut basculer assez rapidement entre le divin et le diabolique. Et à cette époque-là, il est véritablement soumis à des pratiques d'exclusion, hein, mais au sens du bannissement, hein, c'est-à-dire on les bannit de la cité. Alors pour avoir les premiers éléments de définition de ce que c'est qu'un vagabond, puisque on s'aperçoit qu'à cette époque-là, toute personne déambulant pouvait être considérée comme vagabond, Enfin, les premiers éléments, ils vont apparaître avec François Ier en 1534, où il sera donné une première définition, on va dire juridique, de ce que c'est qu'un vagabond. François Ier le définit comme tout vagabond, oisif, gens sans aveu et autres, qui n'ont aucun bien pour les entretenir, et qui ni ne travaillent ni ne labourent pour gagner leur vie. Donc le vagabond est considéré comme un gens sans aveu, qui n'appartient à aucune communauté instituée. Il est, à proprement parler, en errance de liens instituants. À cette époque-là, on s'aperçoit qu'il y a de nouvelles mises en place de politiques. Le vagabond sera enfermé à tour de bras. C'est l'époque des institutions d'enfermement et de mise au travail des pauvres. Ces institutions-là vont se multiplier en France, mais dans toute l'Europe. Ce n'est pas une question qui concerne uniquement la France, mais c'est une question qui traverse toute l'Europe à cette époque-là. Alors, moyennant des décennies de condamnations et d'ordonnances royales, le délit de mendicité, de vagabondage va être inscrit au code pénal. Jusqu'à très récemment, parce que j'en reviendrai sur la fin de la petite histoire vagabonde, c'est qu'en 92 que le délit de mendicité, de vagabondage va être enlevé du code pénal à l'occasion de la rénovation du code. Mais on s'aperçoit quand même qu'avec ces premiers éléments de définition de François Ier, la définition du vagabond reste très floue et l'enfermement reste très très arbitraire. Et puis ça va être l'époque du XVIIe siècle. C'est l'époque du grand renfermement, comme Michel Foucault a pu le traiter dans l'histoire de la folie à l'âge classique. On change de logique à cette époque-là. Alors, à cette époque-là, Louis XIV va mettre en place l'hôpital général. Alors, c'est pas forcément l'hôpital général comme on le connaît aujourd'hui, puisque c'est un hôpital général qui n'aura pas forcément pour objectif la médecine ou le médical. Ce sera plutôt l'asile que Louis XIV va mettre en place. C'est-à-dire que c'est cette époque du grand renfermement. Il va y avoir quantité et quantité d'objets inquiétants qui hantent les marges du socius, qui vont être enfermés dans des conditions assez totalitaires, on pourrait dire. Ça va être aussi bien les prostituées, les vagabonds, que les homosexuels, les monstres humains, enfin ça va être les fous, enfin toutes ces figures-là vont être à cette époque-là enfermées dans l'asile. Et le vagabond sera assimilé à la figure du fou. Enfin, une forme de folie bien particulière, une forme de folie humaine. Alors, c'est un mode de traitement que Michel Foucault a bien démontré. Alors qu'au Moyen-Âge, on les bannissait de la cité, quelques siècles plus tard, l'espace sauvage n'existe quasiment plus. Donc, il faut créer des espaces au sein même du socius pour enfermer ces objets inquiétants. Aujourd'hui, on pourrait retrouver ces institutions-là. Enfin, les derniers murs qui restent dans notre société, ce sont les prisons. À l'époque, à l'époque du grand renfermement, la logique de l'asile, c'est vraiment une logique d'enfermement comme on pourrait la retrouver aujourd'hui avec la prison. Alors, j'ai pris une petite citation de Alain Noël Henry. Alors, peut-être que ce nom vous dit rien. C'est un psychologue, philosophe et psychanalyste lyonnais qui est dans sa pensée très foucauldien. Il se rapproche extrêmement de la pensée de Michel Foucault, mais aussi de Louis Althusser. Et il propose de dire que ceux qu'on ne peut plus renvoyer hors de l'espace social, on les met dedans, dans des îlots de sauvagerie noyés dans de vastes espaces humanisés. C'est une logique, comme je vous ai dit, qu'on connaît encore, ça, c'est la prison. C'est un moyen assez fou pour finalement contrôler et circonscrire la figure de la folie. C'est une logique qui, finalement, consiste à inclure dans un extérieur et un intérieur d'un dedans. C'est-à-dire qu'on inclut derrière des murs l'objet errant et inquiétant. Il est exclu au-dedans au lieu d'être exclu au-dehors. Et tout ça dans le principe de circonscrire, localiser le mal moyennant tout un appareillage d'institutions pouvant surveiller et contrôler les objets dits inquiétants. Alors, je vous renvoie au livre de Michel Foucault, il est assez passionnant, ça reste quand même un des classiques hein, des sciences humaines. Et Alain-Noël Henry, on verra, enfin un peu plus tard dans mon propos, il poursuit la réflexion de Michel Foucault. Bon, un siècle plus tard, au XVIIIe siècle, ça va être la libération des enchaînés avec Pinel. Ça va être aussi le début de l'industrialisation. Et c'est aussi le moment de l'édification de ce qu'on appelle l'État-providence. C'est-à-dire que ça va être la mise en place d'interventions publiques en matière d'assistance. Et le vagabond, à ce moment-là, va devenir un peu le contre-exemple des ambitions étatiques hein, pour les citoyens. Ça va devenir véritablement l'antifigure du citoyen. Et à ce titre-là, il sera encore chassé, mais sous un autre mode, je ne sais pas si vous avez entendu parler, des dépôts de mendicité. Non. Alors à l'époque, on change un petit peu de logique, hein, il ne s'agit pas que d'enfermer, mais il s'agit de réadapter. Il s'agit de régénérer les indigents pour en faire des citoyens productifs à l'époque. Et moyennant leur régénération, on pourra les réintroduire dans l'espace social. Alors, à la fin au début de la Troisième République, les dépôts de mendicité vont être abolis, ce qui va encore une fois relâcher cette figure inquiétante du vagabond. Et puis, une fois que les murs sont tombés, qu'est-ce qui reste? Ça va être une nouvelle logique, là. Alors, en ce début du XIXe siècle, hein, ça va être le début de la psychiatrie naissante, hein, ce qu'on appelle l'époque des aliénistes. Hein, ça va être vraiment les premiers jalons de la psychiatrie comme on peut la connaître aujourd'hui. Et le vagabond, il va être décortiqué par les médecins aliénistes. Il sera autopsié, on va dire biopsié, on va le retrouver, il va y avoir de nombreux travaux pour tenter de nommer cette figure assez particulière de l'humain. On va retrouver des termes comme dromomanie du dégénéré, avec un psychiatre qui s'appelle Dubourdieu, et puis Charcot lui va proposer son concept d'automatisme ambulatoire. Alors à cette époque-là, on s'aperçoit d'une grande mutation, parce que à l'époque du grand renfermement, c'était les murs hein, qui permettaient de contenir les vagabonds. À cette époque-là, à l'époque des aliénistes, la logique change. Ça va être une nouvelle logique qui va consister à créer des concepts pour enfermer les vagabonds, et plus dans des murs, mais dans des concepts et dans des théories. Et ce sera le médecin aliéniste se présentera comme le garant d'un savoir tout puissant. Ça, c'est une pensée qu'a proposée Alain-Noël Henry. Il disait qu'à une époque de l'exclusion, donc, on bannissait, on brûlait les fous. Dans un deuxième temps, on les enfermait dans des murs. Et puis, à l'époque actuelle, on les enferme dans des concepts, moyennant un savoir tout puissant. C'est une autre manière de garder dans l'espace social ces figures inquiétantes, moyennant, encore une fois, la mise en place d'un savoir tout puissant, hein, détenu par des experts que sont les psychiatres. Alors, il va se passer les années 30, hein, la crise de 29, il va y avoir encore énormément de bouleversements. Et puis, j'ai récupéré un jour un petit manuel de psychiatrie par le docteur Armand Panier, dont le titre c'est « Le vagabond, déchet social ». On s'aperçoit que malgré toutes ces tentatives des aliénistes pour circonscrire la folie du vagabond, toutes ces tentatives resteront vaines. Le wagon reste, encore une fois, un déchet social par rapport à cette société en pleine industrialisation. Et l'arrivée de la Seconde Guerre mondiale va encore confirmer son statut de déchet à éliminer. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais à l'époque du nazisme, on sait que la plupart des populations qui ont été ciblées c'était les populations errantes. Les juifs, hein, avec la figure du juif errant, il y a eu aussi les Roms, hein, ça on a tendance un peu à l'oublier, hein. C'est-à-dire que les Roms ont été massacrés en masse comme les juifs l'ont été, Et puis ça a été le vagabond. Mais le vagabond, avec tout le flou hein, que sa figure peut susciter. Après cette période un peu atroce hein, de la Seconde Guerre mondiale, ça va être les Trente Glorieuses. Ceux qui sont intéressés à cette question de l'exclusion vont découvrir une nouvelle figure, ça va être la figure du clochard. Hein. La figure paradigmatique des années des Trente Glorieuses, ça va être le clochard. Le clochard, c'est un peu une figure moderne qu'on connaît, nous. Ce serait le vagabond des temps modernes. C'est plutôt une figure qui fait moins peur, hein, qui, dans son errance, est fixée. Il a plutôt de la sympathie. Hein. Et à cette époque-là, voilà, il ne sera pas véritablement l'objet de politiques de répression. C'est plutôt à cette époque-là que les politiques d'assistanat vont monter en puissance. Alors, Erving Goffman, Goffman dit que finalement le clochard c'est un déviant intégré. Et puis il va y avoir le tournant des années 70. Julien Damon, qui est un docteur en sociologie et professeur à l'École normale supérieure, va voir dans les années 70 un tournant hein, dans la prise en charge de ces figures. C'est véritablement à la fin des années 70 que va advenir hein, cette figure du SDF. Il va faire un schéma, je ne voulais pas minier puisque je n'ai pas réussi à l'extraire du document que j'ai lu. Il va s'apercevoir que le délit de vagabondage, enfin le nombre de délits de vagabondage sur ces quelques années va tendre à diminuer, voire à complètement disparaître. Et proportionnellement à ça, les financements en termes de politique publique qui concernent l'assistanat va croître. En fait, la répression va baisser jusqu'à disparaître. Et puis, ça va être la naissance de la politique d'assistanat. Hein. À ce moment-là, la figure du clochard va glisser de la répression à l'assistanat. Julien Damon, il essaye d'analyser un peu ce tournant des années 70, et il va y voir quatre grands facteurs qui sont liés. Le premier qu'on a peut-être tous en tête, ça va être ces grands mouvements de liberté de la fin des années 70 avec mai 68. La deuxième, ça va être aussi la forte remise en question de toutes ces questions qui sont relatives à la prison, aux asiles psychiatriques. La troisième, c'est le début de la crise économique, avec les prémices des chocs pétroliers, hein, qui ne sont quand même pas oubliés. Et puis la naissance, l'avènement de ce qu'on pourrait appeler d'une société de la précarité. Et puis le quatrième facteur qu'il y voit, c'est que l'évolution plus généralisée de la prise en charge des déviances tend à changer. Hein, c'est-à-dire qu'il va être créé bon nombre d'institutions qui vont plus être des institutions de bannissement, mais plutôt des institutions de réadaptation. Hein. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, il va apparaître ce terme de désadapter et de réadaptation. C'est-à-dire que l'enjeu de ces institutions-là, à cette époque-là, vont changer de logique, elles vont tendre à la réadaptation des inadaptés. Alors pour finir un petit peu cette histoire, cette petite histoire vagabonde de M. SDF, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en 92, on va voir la disparition hein, des délits de vagabondage et de mendicité dans le code pénal. On rompt comme ça avec plus de 1000 ans à 2000 ans de pratique où jusqu'à maintenant le vagabond était un criminel. Voilà, là c'est à peu près toutes les conditions qui vont permettre à l'avènement hein, du SDF. Mais il est l'héritier d'une figure qui est la figure du vagabond qui reste qui est restée extrêmement floue. Et du coup, le vagabond, il est l'héritier aussi de ce flou, du flou de ses contours, et on va s'en apercevoir un peu tout de suite. Après cette petite histoire, je voulais faire un petit peu un bond en avant pour revenir en novembre 2011, pour parler un peu de l'actualité. Patrick de Clercq, dont j'ai amené le livre, qui a sorti un classique qui s'appelle Les Naufragés, que je conseille à tout le monde. Dans un autre livre qui s'appelle « Le nouveau sang est arrivé, l'horreur SDF », il commence son livre comme ça. novembre, trois petits points. Les SDF, clochards et sans-abri, comme les huîtres, sont de saison. Voilà. Tout ça pour dire que d'année en année, on a affaire à peu près toujours au même phénomène. Il y a deux ans, j'avais écrit un petit texte que je voulais présenter dans une école d'éducateurs pour m'apercevoir que chaque année, à cette époque-là, on a affaire toujours au même phénomène. Sauf que cette année, novembre 2011, c'était un petit peu différent. Pour plusieurs raisons, c'est-à-dire que l'hiver a tardé à venir, il n'y a pas eu les grands froids. Alors, novembre, c'est quand même l'époque, toujours de l'ouverture du plan hiver. C'est un dispositif particulier qui est déclenché par la préfecture. Sauf que là, en ce novembre 2011, l'hiver tarde à venir. Il règne comme un certain calme dans le social, mais enfin, je dirais un calme relatif, pour connaître un peu ce qui s'y passe. Le climat est plutôt clément, ce qui est doux, ce qui est plutôt agréable pour nous. On peut continuer à flâner. Mais cet hiver doux sera plutôt rude pour les autres. Faute de température en dessous de zéro, il n'y aura aucune place supplémentaire n'a été ouverte au début du plan. La Croix, dans le quotidien du vendredi 13 janvier 2012, dit qu'une demande de logement d'urgence sur deux n'a pas été honorée en décembre. Des places d'accueil prévues en cas de grand froid n'ont pas été ouvertes. On s'aperçoit à peu près toujours du même phénomène. C'est-à-dire que l'urgence, finalement, ne presse pas. Il y a comme une règle qui règne dans l'urgence sociale, c'est que pas de grand froid, pas de mort, pas de dépêche, pas d'action publique. C'est à peu près comme ça, toujours comme ça depuis pratiquement plus d'une vingtaine d'années. Et puis février va débouler, tout le monde en a à peu près des souvenirs. Février avec ses températures quasi sibériennes, et là ça va être comme d'habitude. Ça s'agite de partout, les presses, les dépêches commencent à se multiplier, et comme depuis une vingtaine d'années, on va être baigné dans une atmosphère d'émotion et d'indignation publique, et c'est à cette occasion-là que les responsables de l'action publique vont, appuyés par les responsables d'associations caritatives, vont enfin mettre en place les dispositifs d'urgence. Il a fallu attendre quand même jusqu'à février pour que ce qu'on appelle la saison SDF puisse s'ouvrir. Alors, c'est toujours un moment assez particulier, l'époque des grands froids. Je peux le voir à Saint-Étienne comme je peux le voir à Lyon avec les équipes. Les équipes qui, généralement, font du travail social avec les personnes en situation de sans domicile fixe, à ce moment des grands froids, vont opérer une mue saisonnière, c'est-à-dire qu'il ne sera plus question de faire d'accompagnement social, il sera question sous pression préfectorale de mettre tout le monde à l'abri. C'est-à-dire il s'agit, encore une fois, de traquer, de marauder, j'ai des souvenirs assez précis en tête, pour mettre tout le monde à l'abri, pour que personne ne puisse mourir à la rue. Ce qui va se jouer dans ces moments-là, c'est quand même, je ne sais pas comment on pourrait dire, mais un enjeu assez morbide entre la question politique et la question médiatique. C'est-à-dire que les médias sont toujours à l'affût de la traque, sont toujours à traquer le premier SDF mort à la rue, et les politiques, eux, vont déployer quantité de moyens pour bourrer les gymnases afin qu'il n'y ait pas de mort. On a l'impression que chaque année, c'est à peu près toujours le même ritournelle. On a toujours affaire à la même question, et ça depuis plus de 20 ans. Ça reste un événement assez troublant. Je ne sais pas si chacun d'entre vous fait attention à ce moment-là, mais je trouve que c'est assez parlant du monde dans lequel on vit. Alors, quand on regarde un petit peu les dépêches, on s'aperçoit de plusieurs choses. J'avais répertorié là il y a deux ans bon nombre de dépêches. On s'aperçoit que il n'y a jamais un nom. Tous ces personnes qui sont mortes à la rue, sont mortes SDF, elles n'ont aucun nom, aucune identité. mais elles sont aussi sans visage. Hein. On a l'impression que ce sigle SDF tend à effacer complètement l'expérience du visage. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que il n'est pas question de l'obscurantisme et du cynisme hein, de la question politique. C'est-à-dire que les médias ont une part active hein, dans ce processus qu'on a à faire à chaque année, qui est toujours le même. Moi, je me posais la question de dire, mais c'est quoi cette société, ces médias qui font une hypermédiatisation dans le choc des titres et des images de ceux et celles qui sont morts d'avoir été SDF. Il y a un espèce de paradoxe comme ça de la surexposition de la disparition. C'est très très questionnant. Julien Damon, toujours le même, a fait un bon nombre de travaux. L'un de ses livres assez classiques s'appelle La question SDF. Et aussi dans bon nombre d'articles que vous allez pouvoir retrouver sur Internet, il fait une analyse un petit peu des médias comme ça. Il dit que finalement, l'apparition de l'exclusion sociale dans les agendas de l'action politique est liée hein, à cette, bien évidemment à la présence de plus en plus visible dans l'espace public hein, de cette nouvelle figure, mais aussi à la question des médias. Il dit que les médias ils y jouent un rôle important quant à la mise en scène de l'exclusion. Comme je vous l'ai dit, hein, la première fois que ce sigle est apparu, c'est en 1983, selon la revue L'Histoire. 10 ans plus tard, en 1993, il dit que le sigle aux trois lettres va supplanter complètement les autres dénominations. On ne retrouvera plus jamais ni le clochard, ni les vagabonds, ni le mendiant. Il ne s'agit plus que du SDF et que de lui. Alors, cette dénomination SDF, par les médias, elle a cette tendance un peu à s'inscrire dans un processus qu'on pourrait appeler d'euphémisation, hein, c'est-à-dire une espèce de banalisation, d'une neutralisation d'une question qui est quand même importante hein, au cœur de notre société. Mais il est apparu quand même pour les médias que c'était peut-être plus vendeur, plus politiquement correct. 93, ça reste aussi une année importante. Ça va être l'apparition des journaux de rue comme Macadam, hein, qui sont des journaux qui sont vendus par des SDF. Ça va être aussi la création du SEM social de Paris par Xavier Emmanuelli. Et puis ça va être une époque de grande récession économique. Aujourd'hui, hein, enfin, un peu de manière cynique, hein, je pourrais dire que SDF est devenu une star hein, des médias, il fait les gros titres de l'hiver venu, mais ce qu'on tend peut-être à oublier, c'est que le nombre de morts à la rue en hiver n'est pas aussi important que ceux qui sont morts tout au reste de l'année. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de surmédiatisation des morts pendant l'hiver, il reste que ceux qui sont morts d'avoir été SDF l'aident tout aussi de manière importante tout au long de l'année, et encore plus l'été, avec ces problèmes de déshydratation. Sauf que il y a vraiment quelque chose qui est très étonnant, hein, c'est quand même cette espèce d'amnésie comme ça, médiatique, politique, à cette époque-là. Alors, enfin, je trouvais que c'était le fait que cette question revienne un peu de manière inchangée, toujours en hiver, toujours à l'époque du grand froid, ça venait un peu analyser un temps social très particulier. Hein. On a l'impression que le temps de la question SDF, c'est un espèce de temps comme ça, clos sur lui-même, un espèce de temps mélancolique, un temps traumatique, un temps cyclique, comme on peut le retrouver, comme moi je peux le retrouver à propos de certains patients traumatisés de guerre, on a l'impression qu'ils sont toujours dans un processus cyclique, ils sont dans le présent immanent, voilà. On a l'impression que c'est le temps social de cette question SDF, finalement, vient on a parlé de quelque chose qu'on pourrait appeler la mélancolisation hein, quand même de notre société. Et puis à côté de ça, c'est vrai que le discours médiatique sur cette question-là tend à rendre encore plus flou hein, les contours de ces populations dites SDF. Elles en font à la fois une figure inquiétante et provoquent de l'indignation, mais aussi de la compassion. Alors il y a une espèce comme ça aussi, on le regarde dans les médias et plus particulièrement la télé, hein, une espèce de surexposition comme ça sur la télé, sur l'écran de télévision de ces questions-là. Et ça tend un petit peu autant à fasciner, comme ça abolit le lointain, et puis ça nourrit aussi le rejet du prochain, hein, dans une forme de violence symbolique sans cesse répétée l'hiver venu. Et puis les médias, ils ont tendance aussi un petit peu à entretenir ce mythe assez contemporain que ça peut arriver à tout le monde. Et puis Julien Damon dit aussi que à garder les yeux fixés sur les titres des journaux, les décideurs risquent de ne jamais pouvoir traiter les problèmes importants et les SDF demeurer des saisonniers d'action publique. Voilà, on a l'impression qu'il y a une espèce de pacte comme ça qui est signé entre deux institutions de notre société, hein, la politique et d'un côté le médiatique, mais deux institutions qui sont aussi, semble-t-il, complètement coupées de la réalité de ces questions de l'exclusion. Je voulais parler aussi de ce titre-là, c'est de la question SDF à l'horreur SDF. Il s'agit là de deux titres, en fait, de bouquins qui sont devenus des classiques, hein, sur cette question-là. Et le premier, hein, je vous l'ai dit, c'est celui de Julien Damon, qui est plutôt quelqu'un qui a eu une approche sociologique, hein, sur la question SDF. Et puis l'horreur SDF, toujours du même Patrick de Clercq, qui lui a passé plus de 15 ans avec les clochards de Paris. Il est anthropologue, psychanalyste. Il va tenter de soigner comme il peut à Nanterre toutes ces populations les plus grandement marginalisées. Julien Damon, dans ses études assez rigoureuses, hein, d'un point de vue méthodologique, va montrer que ces populations dites SDF est une population hétérogène. Sous ce cycle, on retrouve aussi bien des jeunes en errance, des toxicomanes, des sans-papiers, des demandeurs d'asile, des chômeurs, des travailleurs pauvres, des anciens enfants institutionnalisés, des personnes âgées, des malades mentaux, des Roms. Et puis bien évidemment, on y retrouve la figure que Patrick de Clercq a décrit, les clochards naufragés. Mais enfin, le clochard n'est pas le SDF, et réciproquement, et pourtant, dans notre imaginaire à tous, on a bien l'impression que parfois ces deux figures se confondent, et c'est parfois même plus fort que nous. On est comme pris au piège, hein, par ces représentations-là. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce fameux sondage Emmaüs BVA de 2006. Où 60% des personnes sondées exprimaient cette peur que de devenir un jour SDF. C'est un sondage dont tout le monde a parlé. Et ce qui est pire, c'est que l'année d'après, hein, en 2007, on atteint. Alors je me trompe, c'est pas ça. En 2006, c'est 48% des personnes sondées, hein, ont cette crainte de devenir SDF un jour, et en 2007, c'est 60%. Les SDF nous font silencieusement peur. Et puis ils nous font d'autant plus peur qu'ils ont envahi l'espace social, hein, médiatique et politique. Alors qu'est-ce que ce sondage vient dire en filigrane? Il dit, enfin, et ça Antoine en a parlé la semaine dernière, il dit cette désespérance ambiante, hein, qui habite nos sociétés contemporaines, qui passe de crise économique en crise économique, de crise sociale en crise sociale, dans un espèce de déferlement médiatique que rien ne paraît arrêter. Et c'est encore valable à l'heure actuelle. Qu'il y a aussi, ce sondage il dit aussi cette espèce de perte de confiance qu'on a dans les institutions qui a été amorcée au début des années 80. Cette peur de devenir un jour SDF renvoie à une espèce de crise et de délitement du lien social. Et puis aussi à la promotion, au sens marketing du terme, concept d'individu. Mais il dit aussi autre chose. La figure du SDF, elle porte en germe quelque chose qui nous fait horreur. J'ai pu avoir en main une thèse qui a été faite sur les représentations concernant la question SDF. Et le SDF est une figure sociale de la perte, du manque. Il est la figure du manque à être socialement. Le SDF, dans toute son identité, dit le manque. Il est, dit-on, sans toit, sans travail, sans famille, sans ressources, sans lien, sans rien, un rien social. Il est celui qui a tout perdu, sans attache aucune. Il est comme en dehors de tout lien. Sauf que qui se présente comme ça en dehors de tout lien. Là, c'est bien la figure du clochard qui revient. Le clochard, c'est un peu la figure humaine de la déchéance la plus absolue. Elle vient montrer cette espèce de folie d'exclusion que Patrick de Clercq a montré. Tout ça pour vous dire que cette figure du SDF contient en germe une autre figure qui est celle de la déchéance humaine que représente le clochard. Sauf que le clochard, moi je m'étais dit que si par hasard on avait posé la question « craignez-vous de devenir clochard un jour ?» pas sûr que ce sondage ait eu les mêmes résultats. Le clochard, c'est un peu une figure qui n'est pas nous, on arrive à s'objecter, il est tout sauf nous. Sauf qu'avec ce changement de paradigme, ce glissement sémantique de la figure du clochard au SDF, voilà, aujourd'hui le SDF, ça peut être nous, du jour au lendemain, moyennant une crise économique, le fait de perdre un travail. Le SDF, il est possiblement nous à 60%, comme le dit le sondage. Alors, cette figure de SDF, elle est, comme je vous l'ai montré, tenter de vous montrer une figure qui se situe comme en trépied, en fait. Il est une figure qui condense bon nombre de représentations sociales, mais il est aussi une figure qui a été construite par un discours politique et un discours médiatique. Alors, au début des années 90, il va se créer aussi tout ce système qu'on appelle assistanat. C'est un système qui va se complexifier d'année en année, avec la création d'un système d'assistance aux SDF, un système qui, parce qu'il est régulièrement laissé à l'abandon par les politiques, va finir par un peu s'enquister, fonctionner un petit peu en autarcie. On peut même dire parfois que c'est un système SDF qui va parfois être contraint à la clochardisation. Puis ça va être l'arrivée aussi dans les années 90 de bon nombre de professionnels, les travailleurs sociaux, qui vont être mis véritablement à rude épreuve face à un système un petit peu construit de briques et de broc, et qui seront plongés véritablement dans une forme que moi j'appelle d'injonction sociale paradoxale. Ça va être la mise en place de dispositifs comme la veille sociale, ça va être la mise en place du 115, c'est-à-dire le numéro pour les sans domicile fixe, ça va être la création du SAMU social. Aujourd'hui, je crois qu'il n'y a pas une grande ville qui ne possède pas son SAMU social. Ça va être la mise en place des hébergements d'urgence, de ce qu'on appelle les CHRS, Centres d'hébergement et de réinsertion sociale. Les lits halte soins santé pour ces personnes qui n'ont pas de domicile pour la post-hospitalisation. Ça va être aussi la création des allocations au logement temporaire. Ça va être la création du plan hiver, du plan froid, du plan grand froid. Mais il va se créer comme ça un espèce de système d'imbrication d'institutions qui vont devenir de plus en plus rigides au fur et à mesure des années, avec toujours sa contrepartie. Quand on crée une institution d'assistance, c'est la stigmatisation. C'est-à-dire que je vous renvoie par exemple à la création du RMI, qui a été un dispositif mis en place au début des années 80. Quelques années après, ceux qui étaient bénéficiaires de RMI, on les appelait les RMistes. C'est-à-dire, il y a ce fort pouvoir de stigmatisation, c'est-à-dire que toutes ces institutions qui sont relatives à l'assistanat tendent toujours à un processus de stigmatisation par le reste de la population. Alors, ce qu'on perd un petit peu dans ces discours, à la fois politiques et médiatiques, c'est quelque chose un petit peu de la blancheur. On n'est pas totalement dans une dictature. Une dictature, ça empêche de penser, ça interdit de penser, alors que ce discours qui se plonge dans la blancheur empêche de penser ces questions autour du système SDF. Elle empêche de penser la part du scandale politique de la précarité, mais par les politiques eux-mêmes. C'est quelque chose d'assez paradoxal, parce qu'on pourrait imaginer que quelqu'un comme Martin Hirsch puisse révolutionner un petit peu l'affaire, mais une fois embriqué dans le système du discours politique, on a l'impression qu'il a perdu pied, perdu réalité, et était devenu quasiment incapable de pouvoir penser cette problématique-là. Et puis on s'est aperçu aussi que c'est un système qui est devenu complètement inextricable, et pour des raisons qu'on va essayer de voir tout à l'heure, Et c'est un système aussi qui vacille entre, bien évidemment, assistance, mais aussi punition. Dans un livre de Stéphane Rulac, qui est un éducateur spécialisé, qui a longtemps travaillé auprès de ces populations-là, il dit très bien que ce système, il est à la fois scandaleux, indigne, que ce système qui est censé porter assistance aux exclus crée lui-même de l'exclusion. Alors pour reprendre à peu près les propos d'Alain Noël Henry, hein, qui voyait dans les figures de la déviance que pouvait être l'enfant inadapté, le fou, un espèce de monstre mythologique, on pourrait dire que le SDF est devenu ce nouveau monstre mythologique de notre modernité, hein. Un monstre qu'il faut tenter de neutraliser dans son errance, de contrôler, et ce système d'assistanat finalement est plus qu'un système d'assistanat, c'est un système de contrôle et de surveillance. Je voulais faire une petite pause, hein. Je voulais pour tenter d'introduire une autre question, hein, parce que j'ai essayé de mettre en avant les questions politiques et médiatiques autour de la question SDF, mais je voulais aussi introduire notre part de responsabilité à tous, hein, dans cette question-là. Et je voulais faire un petit excursus. La semaine dernière, Antoine, vous avez parlé des vampires. Moi, je vais vous parler d'un autre mythe contemporain, qui est le mythe contemporain des zombies. Ce qui me semble assez essentiel dans cette figure-là, c'est que ça vient nous parler aussi de notre société, de notre monde occidental, et peut-être tenter de nous apporter des réponses aussi sur l'horreur SDF, hein, cette germe d'horreur qui existe autour de cette question-là. Alors pour traiter cette question, j'ai découvert il y a quelques années une psychiatre ethnologue, qui n'est pas du tout une psychanalyste. Alors je vous ai mis une photo, puis je vous ai mis son nom parce que l'orthographe est assez compliquée. Marieke Moiseev, qui est psychiatre et ethnologue. Et j'ai trouvé ses travaux très originaux. En fait, elle est partie bon nombre d'années travailler avec les aborigènes. Et puis en revenant en Occident, en France, elle a tenté des travaux pour tenter d'appliquer l'idée de Claude Lévi-Strauss. Je vous rappelle que Lévi-Strauss a tenté de montrer que dans les mythes amérindiens, il y avait comme ça une espèce de soubassement culturel, enfin, qui, dans les mythes, il y avait quelque chose qui parlait de la culture, hein, de ces populations amérindiennes. Et Marika Moiseev, elle a tenté de, en prenant l'hypothèse de Claude Lévi-Strauss, de montrer que le cinéma, la science-fiction, peut être considéré comme un mythe, comme les mythes amérindiens, pour tenter d'appréhender ce qui traverse notre culture, hein, de manière inconsciente. C'est comme ça qu'elle montre. Vous pouvez trouver, hein, sur Internet ses travaux, je vais faire très court. Elle considère que l'Occident est dans une époque où la question de la procréation tend à s'individualiser, à prendre son autonomie par rapport à la question de la sexualité, hein, avec la création de procréations in vitro, le contrôle de la procréation avec les contraceptifs, etc. Elle va trouver dans le film Alien, je ne sais pas si tout le monde se souvient un petit peu de ce film, le retour en fait de cette question de la procréation de manière complètement indépendante de la sexualité. Pour revenir à peu près à notre sujet, je voulais aborder une série qui a fait un véritable tabac ces dernières années. Je vais essayer de tenter d'appliquer un petit peu la méthode de Marika Moiseev à ce mythe des zombies. Alors le 31 octobre 2010, le soir d'Halloween, sur une chaîne américaine, va débarquer une série adaptée d'un comics book à succès de Robert Kirkman qui s'appelle The Walking Dead, une série qui sera adaptée par Frank Darabont. Frank Darabont, c'est celui qui a réalisé Les Évadés, La Ligne Verte et dernièrement The Mist. C'est une série qui aura un succès immédiat. Le dernier épisode en date, hein, parce qu'on en est à la saison 2, qui sera diffusé le 18 mars dernier, battra tous les records aux États-Unis. On aura 9 millions de téléspectateurs, battant le dernier record détenu par la série Grey's Anatomy. Avec dans ces 9 millions de téléspectateurs, 6 millions dans la tranche. Et ce que je vais marquer, 18-49. C'est une véritable série événement, c'est un succès populaire. Alors moi je partais du présupposé que ce succès populaire, bah forcément il attracte quelque chose de notre imaginaire à tous. Et je vais essayer de le décrire. Alors c'est une série qui n'est pas tout à fait glamour, hein, comme Grey's Anatomy. Ça raconte les péripéties d'un groupe d'hommes et de femmes contraints à la survie dans un monde post-apocalyptique envahi de morts vivants de zombies. Alors, je ne vais pas tout vous raconter le déroulement de la série, mais je vais juste vous raconter le début. L'histoire débute avec l'évasion d'un prisonnier, le héros hein, qui s'appelle Rick, qui est shérif hein, de son état. Se fait blesser lors de l'interpellation d'un des évadés dans un coma profond. Et à son réveil, on ne sait pas bien combien de temps il s'est passé. Le héros hurle sur son lit, essaie d'interpeller quelqu'un, un soignant. Personne ne répond. Personne ne répond à son interpellation. Il comprend qu'il est seul. Alors il décide de soulever le petit tube. Il essaie d'ouvrir sa porte est bloquée. Tant bien que mal, il arrive à ouvrir la porte. Et alors, ce qu'il va découvrir, c'est l'horreur. Le monde familier accueillant, tel qu'il l'a connu avant son coma, n'est plus du tout le même. C'est un monde inquiétant, où règne une horde de morts vivants décérébrés, clochardisés, des zombies cannibales. Alors, ces zombies sont assez particuliers parce que ce sont des morts en putréfaction, vociférants, déambulants, tels des automates élidés de toute subjectivité. Ils clochent aussi, hein, ils boitent. Ils sont habillés de haillons. Dans la série, ces zombies vont être appelés The Walkers, c'est-à-dire les rôdeurs. Hein. Et ces rôdeurs, ils traînent dans la rue à la recherche de chair fraîche. Ils sont aussi contagieux. Et si vous ne le dévorez pas, une simple morsure peut faire de vous un mort vivant. Le héros comprend que la civilisation a été anéantie par un mal inconnu. Et dans cette série, que je vous invite vraiment à regarder, hein, pour s'accrocher, ça crée quelque chose d'une inquiétante étrangeté. Alors c'est véritablement une descente aux enfers hein, pour le héros qui est idéaliste, qui est en proie au doute, qui est prêt à tout pour protéger les siens, et finalement ça renvoie ce groupe d'humains à leur propre inhumanité. Mais plus qu'une histoire de zombies, hein, c'est comme l'auteur de la série le dit, c'est plutôt un soap opéra de la survie. C'est-à-dire que l'idée c'est pas forcément de présenter un film d'horreur avec des zombies, c'est plutôt de voir comment un groupe d'humains est mis à rude épreuve dans un monde complètement déshumanisé. On peut retrouver un petit peu cette série-là avec The Lost. Alors je vous ai mis quelques images, voilà. Enfin, ça c'est la BD. Ça c'est la série. Elle débarque en France, je crois, sur une chaîne de télévision, ça doit être TF6, mais je suis pas sûr. Ça c'est une des scènes du premier épisode. Et voilà l'un des dignes représentants de ces hordes. Alors, je voulais rajouter qu'il y a quand même l'idée du cannibalisme. Hein, c'est quand même une idée importante hein, qui a été rajoutée. Elle renforce un petit peu l'idée et l'ambiance de fin de civilisation. Dans un ouvrage qui est paru là, cette année sur les mangeurs d'autres, Anthropologie sur le cannibalisme, ce livre montre que le cannibalisme est un des tabous les plus importants de notre société avec l'inceste. Donc l'idée du cannibalisme dans cette série rajoute quelque chose à l'ambiance de fin de civilisation. On retrouve un peu la même chose dans le livre et le film de comme Cormac McCarthy sur la route, hein, où la moitié de l'humanité survivante est coupée en deux, avec ceux qui survivent en tentant de trouver boîte de conserve et des aliments civilisés, et les autres qui ont cédé au cannibalisme. Finalement, la question que pose cette série, mais aussi la route de McCarthy, c'est comment préserver son humanité dans le désespoir et dans les ténèbres d'un monde devenu post-apocalyptique. Est-ce que nous-mêmes, resterions-nous des hommes à l'heure de la mort de la civilisation? Expulsés hors civilisation, qu'est-ce qui deviendrait de notre propre humanité? The Walking Dead, je pense qu'une partie du succès réside un petit peu dans cette mise en tension. Alors le scénario, il a beaucoup à voir aussi avec un autre film. Là, je vous ai mis des images aussi du film. Le scénario aussi a beaucoup à voir avec un film de Danny Boyle, 28 jours plus tard, où il est question à peu près du même début. Le héros se réveille et le monde a complètement changé. Alors on sait, hein, dans les années 90, il y a eu quantité de films catastrophes où la question de la mort de notre civilisation a été plus ou moins travaillée. Il y a eu les invasions extraterrestres, les attaques d'astéroïdes, les astéroïdes géocroiseurs ou virales, les catastrophes naturelles ou nucléaires provoquées par la science que l'homme a lui-même produit. Mais dans tous ces films-là, l'ennemi est toujours un ennemi provenant de l'extérieur. Hein. Il est toujours autre. La menace d'extinction de l'humanité fait recette, et ça Hollywood l'a bien compris. Mais avec cette histoire de zombies, là, il me semble qu'il y a quelque chose de différent. Je vais revenir faire une toute petite histoire du zombie après celle du vagabond. Le zombie, il était une figure encore inconnue il y a un siècle, hein, dans notre société occidentale. Il est une figure qui a envahi notre imaginaire collectif il n'y a encore pas si longtemps que ça, parce qu'il, me semble-t-il, cristallise à la fois nos angoisses les plus archaïques, mais aussi nos terreurs. Et puis, entre fascination et rejet, il est devenu quasiment une marque déposée. Je ne vous ai pas mis les images, mais East Park, qui est une marque de sac à dos, en a fait une emblème. Et puis, bon nombre de jeux vidéo s'y présentent un univers zombie. Et puis, il y a aussi Michael Jackson qui a fait un clip avec des zombies, le fameux Thriller. Alors, à l'origine, le zombie, c'est une figure du vaudou. Hein. C'est une figure de l'aliénation. C'est un mort déjà enterré qui est ramené à la vie, dans une vie semi-consciente, pour sévir comme esclave dans une plantation. C'est comme ça qu'on la retrouve dans la culture créole, qui est beaucoup empreinte de la question de l'esclavage. Elle ramène l'individu mort à une condition d'esclave, contre laquelle précisément le vaudou s'est construit. Le zombie est dans une conscience altérée. Il ne sait rien de ce qui lui arrive. Il ne dispose d'aucune volonté d'agir. Il est comme téléguidé, machiné par un prêtre vaudou qui l'a envoûté. Je vous ai mis l'extrait d'un film qui s'appelle White Zombie, qui est un film des années 30 qui reprend tout à fait cette mythologie du vaudou. Alors le zombie, la figure du zombie va débarquer petit à petit dans l'imaginaire du cinéma de science-fiction américain, comme la figure de l'aliénation, surtout dans les années 50, avec la question de la guerre froide. Le zombie sera toujours à la fois aliéné par un professeur fou, ou alors par des extraterrestres. Mais la figure du zombie, comme on la connaît dans The Walking Dead, va véritablement apparaître dans les années 68, avec un film que vous avez déjà tous entendu parler, qui s'appelle La nuit des morts vivants. Alors à l'époque, ça a été c'est le must à l'époque du film d'horreur. Il va avoir un succès considérable. Et ce film va poser les bases du zombie tel qu'on le connaît, c'est-à-dire en décomposition, avide de chair fraîche, en train de déambuler dans les rues. Mais il y a surtout quand même l'idée dans ces films-là, parce que ça va être le premier film d'une vague successive de films sur les zombies. Il va y avoir toute une vague de cinéma italien, avec Romero, Argento, Fucci. L'idée dans ces films, c'est que le zombie est devenu un électron libre, il est d'origine inconnue, mais c'est surtout qu'il n'a plus de maître. Hein. Alors que dans les années 50, il y avait toujours un peu la figure du professeur fou ou des extraterrestres, là il devient un espèce d'électron libre. L'idée aussi, c'est que les morts ne cessent de mourir, l'enfer déborde, c'est la fin des temps. Alors c'est assez marrant parce que l'un des films de George Romero qui s'appelle Zombie, ça va être aussi une critique assez acerbe de la société de consommation. Ça va être la mise en scène de zombies dans un centre commercial. Tout ça pour montrer à quel point aussi les films d'horreur sont aussi vecteurs et politiquement engagés. En fait, on s'aperçoit que le zombie tel que Romero à l'époque a voulu le décrire, représente finalement notre pulsion consumériste, une espèce de pulsion orale avide, toujours plus avide de chair fraîche ou plus avide de supermarché, quand l'homme a faim, où court-il, soit au McDonald's, soit dans le supermarché. Bon, ça c'est ce qu'on pourrait dire. Moi j'aurais envie de rajouter quelque chose autour de cette question des zombies. Je voulais savoir un peu l'heure qu'il était. Mais... 10. Alors je vais faire vite. Alors, il y a toujours dans l'idée de cette série The Walking Dead, mais aussi les films de zombies à partir des années 70, c'est que les morts reviennent à la vie, ils cessent de mourir, l'enfer déborde, c'est la fin des temps. Ça donne vraiment l'impression que cette mort est évacuée, déniée par la médecine qui tente de faire de nous des êtres immortels. Dans ce film-là, il y a une espèce de retour comme ça, du refoulé, du clivé. Et qui met en perspective aussi, ce qu'un bon nombre d'auteurs ont montré, c'est cette espèce de deuil, de fond de deuil interminable du siècle passé, avec cette quantité de morts. Et puis le zombie, lui, ne fait que l'incarnation, à la fois violente et sauvage, de ce retour de la mort. Et puis il nous rappelle aussi les mots d'Auguste Comte, hein, que l'humanité est plus faite que de morts que d'humains. Mais ce qu'elle dit aussi, hein, je crois que c'est une angoisse qui hante aujourd'hui notre société, c'est l'idée de la mort de civilisation. Hein. Cette mort de civilisation entraîne quelque part aussi notre mort en tant qu'homme. Quelque part aussi, hein, que ce processus de civilisation à travers les zombies peut se retourner contre nous et faire de nous des zombies, des morts vivants, complètement décérébrés, désubjectivés. On peut se dire que ces zombies, finalement, représentent notre propre part d'inhumanité, hein, nous, dignes représentants de cette société de consommation, qui avons besoin aussi, hein, dans notre position d'inclus, de s'objecter une figure de l'exclu. Un jour, discutant avec un de mes patients, Freddy, je discutais de la série avec lui. Et un jour, il me disait, mais finalement, c'est peut-être bien vous, les zombies. Et c'est peut-être pas moi, c'est peut-être moi qui suis dans le survival de type zombie. Hein. Alors, je vous propose aussi cette hypothèse de dire que il y a peut-être un inversement symbolique, hein, que peut-être que l'exclusion des uns est aussi le pendant de l'aliénation des autres. Mais si on pose cette question, si on pose cette hypothèse que de dire que d'une part il y a les exclus, d'une part il y a les aliénés, et si le SDF est la figure de l'exclusion, quelle est la figure de l'aliénation? Alors, d'autres figures de zombies. Ça va me permettre d'introduire un dernier chapitre. J'essaierai de faire assez rapidement pour aussi ouvrir à la discussion. Je propose de dire que, comme on l'a vu aussi l'année dernière avec Jean-Baptiste, que la figure de l'aliénation dans notre société, c'est la figure du normopathe. Alors, le SDF, lui, débarque dans le début des années 90 pour envahir l'ensemble de l'espace social, politique et médiatique. Dans les années 70, un nouvel analysant, c'est comme ça qu'on appelle ceux qui vont en psychanalyse, débarque dans le cabinet du psychanalyste, et c'est le normopathe. L'année dernière, on a pu voir avec Joyce McDougall et aussi Christopher Bolas quel genre de personnalité c'était. Je vous fais un résumé. Un type de personnalité qu'on peut décrire comme borderline, état limite, où les affects sont appauvris, où l'intellectualisation est lisse et froide, surinvestie, où toute trace de subjectivité propre semble comme effacée. Son identité est le produit de son temps, répondant aux ententes conventionnelles de la société de production. Le normopathe ne souffre pas de sa normalité, bien évidemment, il ne souffre pas tout court. Il n'y a aucun questionnement métaphysique en lui, du genre « qui suis-je ?». Pas de doute en lui, cette conviction d'être normal entrave sa liberté de penser. Il respecte les idées reçues, comme il respecte les règles de la société, il ne les transgresse jamais, même en imagination. Et comme dit MacDougall, la saveur de la Madeleine ne déclenche rien en lui, et il ne perdra pas son temps à la recherche du temps perdu. Mais elle dit aussi, et c'est ça qui est plus interpellant d'un point de vue clinique, hein, c'est que cette normalité, qui est une normalité de façade, frappe le sujet d'une carence fantasmatique, ce qui fait que ça éloigne le sujet de lui-même. Alors c'est une figure très, très typique, et on peut en rencontrer très rarement, je pense, mais propose de dire que cette figure-là, cette figure de l'aliénation, c'est bien le normopathe qui l'incarne. Alors ce que les auteurs disent aussi, c'est que c'est un sujet qui est beaucoup plus vulnérable aux addictions et aux accidents psychosomatiques graves. Il est plutôt, comme on dit, cette nouvelle pathologie qui vient des États-Unis, plutôt que sociopathe. Mais à la fin de son article, Joyce MacDougall, qui s'appelle « Plaidoyer pour une certaine anormalité », elle dit « Disons également au compte de cette normalité qu'il est le pilier de la société et que sans lui, la structure sociale serait en péril. Il ne renversera jamais le royaume, il mourra aussi bien pour la République. Sans l'épitaphe, il n'est qui homme et mourut plombier. » Alors, ce qu'on pourrait dire, c'est que cette figure du normopathe, elle, quelque part, structure, fixe, stabilise la société. Et inversement, que le normopathe aussi plonge ses racines dans cette société des normes. MacDougall dit aussi quelque chose de très, très déstabilisant, c'est-à-dire que nous tous, nous possédons nos propres potentiels normopathiques, mais tant qu'on arrive à vivre créativement, eh ben on évite les addictions et les accidents graves psychosomatiques. Alors l'hypothèse que fait Joyce MacDougall doit être son premier article en 72, après repris en 78. Moi je propose de dire que ce mal normopathique qu'incarne le normopathe, celui qu'on retrouve dans le cabinet du psychanalyste, finalement est peut-être beaucoup plus vaste, ce mal normopathique, et peut-être qu'il nous concerne tous. Que ce normopathe qui vient dans le cabinet du psychanalyste incarne un malaise beaucoup plus global dans notre société. Ce mal, on l'a vu déjà la semaine dernière avec Antoine, c'est cette forme d'aliénation aux normes. Un autre psychiatre assez connu dans le domaine, c'est Jean Houry. Jean Houry, il dit « On est tous des normopathes et c'est la chose la plus incurable qui soit. » Ça rassure pas. Et puis la semaine dernière, je vous avais sorti un petit bouquin qui s'appelle « Souffrance en France » de Christophe Dejour, qui est un psychanalyste et psychiatre qui s'est essentiellement préoccupé aux questions de souffrance au travail. Ses travaux dans son livre tentent à montrer ce qu'il appelle les comportements normopathiques en secteur, qu'il peut observer dans les entreprises qui sont sous l'égide de l'entrepreneuriat. Je vais peut-être essayer de conclure, là, j'avais aussi énormément de choses encore à évoquer. Il y a la fatigue aussi. Alors si d'un côté on a une société de la norme et de l'autre côté nos comportements normopathiques, on peut se dire que il y aurait comme ça dans l'air ambiante ce que Rousseau lui il appelait ça le contrat social. Moi je propose de parler de contrat social symbolique. Le contrat social symbolique aujourd'hui il est à ce point malmené par les crises économiques, par le malaise du monde moderne qu'il devient une véritable idéologie de la norme. Mais un contrat social, ça a toujours aussi une part en négatif. La partie positive, c'est le contrat social symbolique, et la contrepartie, ce serait un pacte d'émargination. Ce qui revient à dire que notre position de normopathe, d'inclus, elle est la contrepartie, le pendant de l'existence d'un contre-système qui soit celui de la question SDF. L'un sans l'autre, ça n'existe pas. Et peut-être pour une bonne raison, c'est que notre société aujourd'hui, notre modèle de société occidentale, c'est une société qui est à la dérive, telle une embarcation. Elle navigue comme ça sur un monde fluent, un monde liquide, comme le sociologue Sigmund Baumann l'appelle. Finalement, c'est notre société qui est en errance. Et que face à ce péril, à ce qui peut représenter le naufrage, il y a besoin comme ça de baliser ce qui relève de la société et ce qui relève de la non-société. Le SDF, c'est la figure de ce qui relèverait de la non-société et ce qui nous permet à nous de nous sentir bien inclus dans l'embarcation. Alors on voit un peu le système, à quel point il peut être inextricable, mais ça révèle aussi un espèce de malaise comme ça dans le monde moderne. Je vais terminer là-dessus pour passer maintenant un peu à l'échange. Voilà, merci.